exact. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons parler de politique. Et puis...
Soit même un discours un peu sérieux. Il est grand, il est beau, il est fort. Il est roi et il le sait.
La nuit, au clair de lune, il se tenait caché au bord de la route.
Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur le plateau de...
GTFM
sur le 91.2.
Sonolab. Le Sonolab. L'atelier des sons. Des projets sonores et radiophoniques réalisés avec des écoles, collèges, lycées, des établissements médicaux, sociaux, culturels, de loisirs de 6 ans à 166 ans. Le mercredi et le dimanche à 11h sur JetFM 91.2.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Citoyen. Merci de nous suivre sur JetFM au 91.2. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la discrimination pour se loger dont sont victimes les handicapés, au sens large et pas que. Pour en parler avec nous, nous avons rencontré le DAL, qui veut dire droit au logement, qui est une asso à Nantes qui se démène pour trouver des solutions en accompagnant les personnes en difficulté pour avoir un foyer décent par exemple. Autour de la table avec moi, Lucie, notre invitée. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Nous avons des questions à te poser un peu plus tard, ainsi que Laurent, Jean-Frédéric et Emmanuel. Bonjour les gars.
Bonjour Olivier.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et enfin, il y a Julie à la technique. Pour commencer l'émission, Emmanuel, tu veux bien nous faire un topo de la situation du logement en France et donner quelques chiffres.
Voilà, c'est parti. Le topo. Nous sommes tous logés à l'enseigne du plaisir. Même si l'hiver sera chaud pour raisons climatiques, il pourrait se trouver humide ou se passer dehors pour certains. Les sans-abri trouveraient un toit si les spéculations ne tenaient pas les 2,8 millions de logements et locaux vacants en France dans les mains de ceux qui font de l'argent en attendant que les prix du mètre carré repartent à la hausse, en haut préférant louer à prix stupéfiant pour un temps modique à des gens qui passaient, mais surtout pour que l'appartement coûte cher, car quand il est libre, son prix explose. Tandis que plus la possibilité de récupérer le logement est éloignée, plus la décote est importante. Ça veut dire que les 150 000 personnes vivant à la rue pourraient avoir un chez-soi où se poser, au lieu de mal finir dans leur estime et de voir leur espérance de vie reculer vers les 49 ans. Nous parlons souvent pendant les émissions de notre univers un peu particulier, mais la folie devient beaucoup moins confuse une fois dehors jour et nuit. Car les conditions extrêmes des sans-domicile fixe entraînent l'apparition de troubles psychiatriques, 4 fois plus que dans la population générale. Ils souffrent pour 13,2% d'entre eux de troubles psychotiques, c'est des troubles graves de la personnalité de type schizophrénie par exemple. Le cercle vicieux de la rue continue, encore avec l'impossibilité de se soigner, car les SDF auront du mal à faire rentrer une infirmière libérale dans leur salon. Et ils ont souvent jeté l'éponge. Plus certains de rien vouloir que de se maintenir en forme, hors système. Donc, un lieu pour vivre constitue la première marche, ou le bouton d'ascenseur pour ceux qui roulent en fauteuil pour des raisons d'invalidité. Car les handicaps, le handicap c'est aussi celui de nos cousins, les handicapés physiques. Les valides d'aujourd'hui sont les handicapés de demain. Si quelque chose est fait pour les gens en fauteuil, ce sont aussi les personnes âgées qui vont en bénéficier, car elles ont besoin plus que tout le monde de moyens de déplacement bien équipés. Quand la loi Elan réduit à 20% l'aménagement des logements neufs pour les handicapés, alors que jusqu'à présent il avait été fixé à 100%, et pour des raisons que personne n'arrive à faire passer par les médias sans se le faire reprocher, ce n'est pas seulement les handicapés d'aujourd'hui qui sont lésés, mais aussi ceux que nous allons devenir, une fois devenus vieux. Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés rendre visite à Rachel et Vincent, membres actifs de l'association Droit au Logement, qui renseignent les locataires sur les démarches à accomplir avant qu'ils ne perdent le droit à leur logement.
On est une fédération d'assos, et là, en l'occurrence, on est le DAL 44, qui essayons de faire avancer les droits au logement, les droits à l'hébergement pour tous. On est ouvert tous les vendredis, ouvert au public, mais nous, on se rencontre régulièrement sur tel et tel sujet, on se fait des petits groupes de travail, on va voir les gens là où ils habitent, là où ils vivent. Et puis, on organise des actions militantes. On organise à l'occasion des manifestations, quoique là, on soit pas là-dessus ces temps-ci. Et des actions de sensibilisation, d'alerte du public sur ce qui est en train de devenir leur ville, ce qui est en train de devenir le logement social, par exemple, ce genre de choses. Et des actions militantes plus ponctuelles d'accompagnement des gens pour faire respecter leurs droits.
Ok. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous fonctionnez, en fait ?
On est quasiment 6 membres actifs. On se retrouve toutes les semaines aux permanences du vendredi soir, au local donc, qui est rue Fourré, on accueille le public.
D'accord.
Ensuite, on a quasiment 200, plus de 200 adhérents sur la Loire-Atlantique. Des personnes qui nous suivent, qui suivent l'actualité, qui nous donnent des coups de main aussi de temps en temps quand elles ont le temps. On est tous, enfin, il y a 4 coprésidents et coprésidentes.
Pas seulement.
On valide nos actions et nos décisions de façon collégiale, on va dire. Voilà.
Est-ce qu'il faut être adhérent pour pouvoir avoir votre aide ?
Ça, c'est une question qui est très intéressante parce que pour l'instant, on accueillait les personnes en permanence sans demander d'adhésion obligatoire. Contrairement à d'autres comités nationaux, nous, on partait du principe que non, on pouvait aider les personnes sans avoir une adhésion totale à l'association, à la vie de l'association, etc. Maintenant, on se rend compte que ça, c'est un peu... compliqué de ne pas demander aux gens de s'engager parce que du coup ils s'impliquent pas forcément, même dans leur propre dossier, ils sont en attente en fait de service. Ce que l'on n'est pas, on fait pas partie de service public, nous n'avons pas de subvention publique, on est autonome et indépendant. C'est important dans le secteur de l'immobilier et du logement de rester indépendant parce qu'il y a quand même beaucoup de pression politique et financière. Alors, on travaille avec différentes associations, notamment le Gazprom, donc, qui travaille sur tous les droits des étrangers en France. Et l'association du Gazprom est une très ancienne association, elle est très active sur Nantes. Et on travaille sur des questions juridiques. On essaie de mutualiser nos connaissances juridiques, on fait des formations communes de temps en temps pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la loi et des personnes étrangères notamment. Donc on fait ça, on travaille également, on a des collectifs plus large sur le logement. On peut retrouver la Fondation de l'Abbé Pierre, la LDH, on peut retrouver d'autres associations sur des thématiques plus larges où on essaie d'avoir quelques réflexions sur différents sujets. Mais ça, c'est des réunions très ponctuelles.
On se croit sur plusieurs actions, sur tel squat, sur telle manifestation, sur telle réunion pour travailler sur un sujet. Il y a toute une revendication sur le droit à un hébergement pour tous depuis 2 ans qui revient et rame un peu parce qu'on n'arrive pas à avoir d'interlocuteur à la mairie. Mais ça, c'est tout un groupe d'associations dont on est partie prenante qui relançons ces sujets-là, quoi.
C'est pour ça que j'aimerais beaucoup que les politiciens s'emparent un peu plus du sujet. Voilà, il y a eu l'actualité récente avec Marseille et ce qui s'est passé avec les immeubles qui ont quand même fait pas mal de morts. On a l'impression que les politiques se désintéressent complètement du sujet. Et ils attendent des situations catastrophiques pour se dire on va faire quelque chose, quoi. Enfin voilà. Donc oui, ça m'énerve un peu.
Ouais, une autre actualité en fait, pour rebondir sur ce que vous disiez, le vote de la loi Elan.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Loi Elan, qui est un espèce d'énorme parpaing de loi totalement indigeste.
Globalement, on peut dire que c'est pas une loi qui va dans le sens des...
Non, c'est une loi qui va dans le sens, dans le pire sens.
Ouais, ouais.
Il y a quelques éléments qui sont un peu plus ambigus, où il y a du pas que mauvais. Il y a de bonnes intentions sur la lutte sur la liberté insalubre, qui sera pas suivie des faits, on peut le parier. Mais il y a une casse massive du logement social, il y a une casse des réglementations de sécurité incendie, d'accessibilité handicapée, tout le volet squat, pour la faire courte, toutes les occupations sans droit ni titre, pas mal d'éléments de cette loi qui sont pour supprimer les délais avant expulsion, raccourcir les possibilités de faire des recours ou permettre à la police d'évacuer immédiatement un squat. Ça veut aussi dire tous les gens qui se font résilier leur bail. Et entre autres choses, dans cette loi Elan, il y a la possibilité de résilier de façon automatique un bail en cas d'impayé.
Nous, c'est vrai qu'au droit au logement, on accueille pas mal de personnes qui sont en voie d'être expulsées. Et le nombre d'expulsions, en fait, en Loire-Atlantique, a vraiment augmenté en fait. L'année dernière, c'était plus de 30% d'expulsions. Des expulsions notamment avec présence policière, donc en fait avec la force publique, ce qui ne se faisait pas forcément auparavant. Et donc cette violence sociale-là, elle est de plus en plus présente. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est justement dans la loi Elan, le fait que par exemple dans la trêve hivernale, donc la trêve hivernale, c'est de novembre au 31 mars. C'est une période hivernale pendant laquelle les locataires ne peuvent pas être expulsés. Et là, dans la loi Elan, le délai de 2 mois de commandement à quitter les lieux sera supprimé. C'est-à-dire qu'au 31 mars, les gens pourront être expulsés quasiment sans préavis. Le contenu de la loi nous inquiète parce qu'en fait, il n'y a plus de protection du locataire. Et comme il n'y a plus de place de logement, c'est quand même une crise de logement qui est criante, on se dit, mais où vont aller ces gens, déjà qu'il y a beaucoup de gens à la rue.
Justement, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur le logement à Nantes, plus particulièrement en fait, par rapport au reste de la France?
C'est quoi, c'est 36 mois le temps d'attente moyen pour avoir un logement social maintenant? En dessous de 36 mois, vous êtes considéré comme en attente, même si vous n'avez pas de logement. Vous êtes considéré comme étant en attente, mais ce n'est pas encore anormal. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je demande un HLM. Oui, bon, bah... C'est même pas la peine de faire un recours, c'est normal, ok. Et puis c'est souvent bien plus que ça. Il y a énormément de monde à la rue là, il y a un engorgement des structures d'hébergement d'urgence, même si, force est de reconnaître, et certains collègues seraient pas d'accord avec moi peut-être, mais la mairie a créé quand même beaucoup de places d'hébergement d'urgence, pour y aller à gros traits. L'État renonçant à assurer ce à quoi il est obligé, c'est-à-dire à héberger les demandeurs d'asile, a fait en sorte, au moins dans le département, que les demandeurs d'asile puissent appeler le 115 et soient hébergés dans les structures d'hébergement d'urgence. Ce qui fait que les structures d'hébergement sont complètement sursaturées.
Il y a une question qui me vient à l'esprit. Les bureaux, en fait, dans une ville, sont vides la nuit, en fait. C'est-à-dire que les bureaux soient occupés le jour par les travailleurs et la nuit par un...
Moi, j'ai carrément chez moi 2 ou 3 bâtiments de logements vides.
Ouais.
Et qui sont au niveau du rez-de-chaussée embriqués, ouais. Quoi, murés. Et c'est pas compris. Je comprends pas. Il y a un mec ou deux qui sont en quipions depuis très longtemps. Enfin, avec ce froid, on se pose des questions. Et tous ces logements vides, quoi, qu'il y a en France et à Nantes en particulier, il y en a, quoi. Donc, pourquoi il y a ce refus de créer justement des logements d'urgence?
Ça coûte cher et que ça rapporte pas grand-chose.
Bah après, je pense que c'est une politique, en effet, de l'État de ne pas... Parce qu'en fait, il y a 2 jeux, quand même. Il y a le jeu public et puis il y a le jeu privé. Et tout l'intérêt, quand même, des projets immobiliers, c'est d'être rentable. Et de, quand même, avoir l'accent sur avoir des logements de plus en plus chers et à ce que les gens payent pour se loger. Ouais. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que pour moi, le gros problème de la politique de l'hébergement, du logement en France, c'est qu'ils sont rentrés dans une forme d'ouverture au marché privé et de libéralisation du logement. Donc en fait, les gens sont amenés, et oui, il y a plein de logements vides, mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté d'ouvrir ces lieux, ces logements vides, parce que finalement, c'est aussi prendre parti pour la population et pas forcément pour des capitaux financiers. D'accord. Il y a aussi ce jeu-là. Et quand vous voyez en fait le nombre de logements vides et par exemple le taux et le prix de l'hébergement en chambre d'hôtel et ce que ça coûte, etc., c'est complètement absurde. En fait, finalement, vous allez... Des logements insalubres, des nuits d'hôtel, etc., ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir des logements qui sont parfois même en parfait état. Il y a des logements vides où il y a l'eau, le chauffage, c'est quasiment neuf à l'intérieur, mais qui restent vides, c'est qu'il y a une raison politique derrière.
C'est aussi une question de métropole qui se tire la bourre, parce que c'est la question de l'attractivité. Et à Nantes, on se prend ça régulièrement dans la com de Nantes Passion ou autre. On veut attirer des catégories socio-professionnelles. Plus. On veut pas attirer des gens qui vivront dans les studios, quoi, ça ne t'intéresse pas.
Voilà, c'est le DAL, c'est la première partie. Quelqu'un veut réagir, Laurent?
Oui, non, je vais juste citer une autre assos qui donne des conseils juridiques gratuits par téléphone ou sur rendez-vous en lien avec le logement, en fait, c'est l'ADIL, en fait, l'Agence départementale de l'info. Sur le logement, en fait.
D'accord.
Voilà, et ça peut être très utile parce que, les conseillers juridiques ont une formation juridique Et voilà, ils connaissent très bien la loi, puis ils ont l'habitude des.
Ça permet d'avoir un accès favorisant à des avocats, à des conseillers juridiques, de pas passer par.
Voilà. Puis surtout, c'est gratuit, quoi.
Et c'est gratuit.
Voilà, c'est surtout. Voilà.
Ok, quelqu'un veut parler de témoigner à Emmanuel. Tu as un truc à dire ?
C'est-à-dire que le logement, il y a des choses de fait pour les sans-abri. Je sais que, par exemple, il y a un village qui s'est ouvert en France qui accueille des sans-abri dans des maisons pour que justement ça leur donne ensuite l'opportunité de se relancer. J'ai vu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sans-abri alors qu'il y a beaucoup de places ailleurs, c'était pas compréhensible. Donc l'idée c'est que ceux qui sont dedans laissent rentrer ceux qui sont dehors, mais le souci c'est que si il n'y a pas d'élan politique de fait, peut-être qu'il n'y a rien de réalisable. Même si on pense aux associations, on ne peut pas les laisser faire alors qu'il n'y a rien à côté qui leur permette justement de progresser dans leur fonction.
Oui, c'est vrai que les subventions sont importantes. Hein. Enfin, elles ne sont pas importantes en volume, mais pour la survie des...
C'est vrai que ça, parce que l'histoire, c'est que Macron, là, j'ai cru comprendre qu'il avait zappé ça, les aides aux associations. Et ça, c'est plutôt un coup pour les associations.
Bah oui, surtout que le tissu associatif est super important. Quoi,
C'est vrai qu'il faut, c'est-à-dire que je pense que aider les associations, ça permet justement de donner aux gens justement à mieux vivre, je veux dire, dans tous les domaines.
Ça crée du lien social, les gens se parlent, il y a des lieux qui existent. D'ailleurs, le GEM est une association. Voilà.
Sinon, sur le logement, donc la loi Elan là, qui vient de sortir, qui était donc catastrophique, mais j'avais cru comprendre qu'il y avait une autre loi avant, la loi Dalo, qui permettait de se lancer dans des revendications par rapport à leur logement. Les gens pouvaient se battre contre l'État par rapport à ça.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire que, juste entendu ça, c'est-à-dire qu'il y a un document de l'abbé Pierre, de l'association l'abbé Pierre, qui a été écrit par eux, qui parle de ça justement, que la loi Dalo avait justement cette faculté-là d'essayer justement de contrer un peu les problèmes rencontrés par les personnes qui n'avaient plus de logement, qui étaient dans l'embarras.
Ouais, puis je voulais ajouter aussi, pour les associations aussi, il faut saluer l'engagement des artistes, quoi, qui souvent mettent leur notoriété au service de causes, quoi, comme le DAL, par exemple, je crois. Le DAL de Toulouse, il y avait Higelin qui était venu et tout ça. Ça permet, grâce aux médias, grâce à leur accès aux médias, en fait, de faire connaître.
On ne peut pas laisser comme ça les gens qui sont au pouvoir ne pas réagir, parce que, je veux dire, c'est quand même nos vies, quoi. Je veux dire, s'il y a des gens dehors, ils ne vont pas être contents.
Ça peut arriver à n'importe qui, de toute façon.
Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je voyais un reportage, justement, c'était une personne qui avait vécu toute sa vie, pas nantie, mais presque. Et donc, elle était tombée dans la rue, elle faisait de l'humour encore, parce qu'elle disait, par exemple, regardez, elle était dehors, hein, elle vivait dehors, parce qu'elle dormait dehors parmi les vélos, quoi. Garage à vélo, et elle avait des panneaux publicitaires derrière elle, et elle disait, regardez, je suis dans mon salon avec mes tableaux de maître, quoi. C'était comique, mais quelque part, c'était un peu tragique.
Ah bah oui.
J'avais entendu comme ça un SDF qui a raconté une blague à la télé. Vous savez ce que ça veut dire SDF ? Bah, savoir dormir au froid, quoi.
Oh la vache. Mmh. Okay,
et c'est un SDF qui l'a raconté.
Ouais, bah. Il savait de quoi il parlait.
Il y a aussi cette histoire de SDF qui vivent dans des squats. J'ai connu quelqu'un qui vivait dans un squat il y a très longtemps. Il est mort entre temps d'ailleurs, parce que il vivait mal, quoi. Il était dans un squat quand même. J'ai passé un réveillon avec eux dans le squat. Il était rasé, mais c'était du côté de Atlantis. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'en ai connu un, quoi. Et il a mal fini, quoi. Il finit tout, quoi.
La vache. Bon. On va parler de squat, mais on peut-être parler d'HLM. Tu as une reprise à nous proposer, Laurent?
Oui, alors ma reprise de cette semaine, c'est une chanson de Renaud qui s'appelle « Dans mon HLM » que vous connaissez sans doute tous.
Bah oui.
Et donc elle est parue en 1980 dans l'album « Marche à l'ombre » en fait, et c'est Renaud qui dresse un portrait des classes moyennes. On peut plus récemment, il a fait Les Bobos aussi, qui était aussi un portrait en fait. D'ailleurs, Jacques Attali avait dit à propos de ce chanteur en fait que écouter Renaud c'était mieux qu'écouter trois sociologues en fait. Donc voilà quoi. Donc sinon pour la petite histoire. Renaud avait songé à donner un air de Java à cette chanson. Et c'est le leader du groupe Au Bonheur des Dames, en fait, qui est connu pour son tube des années 70, Aux les filles, en fait, qui lui avait fait comprendre qu'il ne collerait pas au côté rebelle de la chanson, en fait. Donc cet air de Java ne collerait pas au côté rebelle de la chanson. Donc il en a fait une version plus rock en fait que je vais vous interpréter.
Allez,
tout de suite.
C'est parti.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées. Il tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe les nuits dans les caves avec son Beretta. Craque les mômes qui sourave, le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite bite pencue. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, on finit par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la môme du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, il y a jusqu'à Dynamique, Costa en Alpaga, celui qui a payé 20 briques, pour deux pièces plus l'Odia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon, il peut pas. Il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, pauvre contribuable sans triste, il aime pas les enfants, c'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la bombe du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8. Dans 60 mètres carrés, il y a tout le temps de la musique. Des anciens de 68, il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est insti. Il y en a une, c'est ma sœur, qui vit comme ça relax. Il y a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ou un bouc en enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers les boules, ils écrivent à Libé, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la môme du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, il y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Vorias, le mois de juillet au club. Colorée, elle a sa mini Cooper, elle allume tout le quartier quand elle sort son poker. Au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses et puis ça fout des rides. Elle l'a lu dans l'Express, et vous dire si elle lit. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la bombe du huitième, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic qui baladant sur vêtements. Il fait à l'ours son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine Germaine. un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est veut dire si on rêve, putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, c'est la bombe du huitième. Le HLM, putain, ce qu'il est blême. Mon HLM, c'est la bombe du huitième. Le HLM.
Alors c'était Laurent, la reprise c'était Mon HLM de Renaud. Nous allons passer à la deuxième partie de l'interview du DAL qui traite de la question de l'urgence des SDF.
On va passer à une question beaucoup plus terre à terre. Alors concrètement, si on se retrouve à la rue, vers qui on peut se tourner et quelles sont les démarches à faire en fait ?
Si on se retrouve à la rue, c'est déjà trop tard pour se poser la question. Bah, pas complètement, on va faire des trucs mais on a... Le DAL, en tout cas, n'aura pas une solution comme ça, quoi. Mais il faut s'activer avant de se retrouver à la rue, quoi. Mettre en place le plus de démarches possibles, tirer toutes les sonnettes d'alarme et être prêt psychologiquement et administrativement à se battre pour ne pas se retrouver à la rue.
Avant de se retrouver, en fait, à la rue, quand on est... Alors, généralement, on se retrouve à la rue parce qu'on n'arrive plus à payer ses factures et son loyer. Il ne faut pas hésiter à aller voir... Les assistantes sociales, même si maintenant c'est aussi compliqué d'avoir un rendez-vous avec une assistante sociale dans un délai correct, mais il faut aussi faire des dossiers de surendettement. Ça, on peut vous aider, vous aiguiller auprès des services. Il y a l'association Crésus, il y a différentes structures où on peut faire des dossiers de surendettement. Et puis après, on peut avoir des aides ponctuelles aussi de la ville, d'autres services pour essayer de créer un calendrier et un échéancier pour réduire les dettes et ne pas quitter son logement. Parce qu'à l'heure actuelle, retrouver un logement quand vous êtes à la rue et déposer un dossier quand vous êtes à la rue, etc., auprès d'un propriétaire, vous êtes quasiment sûr que personne, enfin, très peu de gens vont vous prendre. Et en effet, malheureusement, la situation de l'hébergement social à l'heure actuelle fait que quand vous appelez le 115 aujourd'hui, homme, femme, avec enfant, quelle que soit votre situation, vous n'aurez pas de place d'hébergement d'urgence sur Nantes.
Donc
on se retrouve à la rue. Et c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui dorment dehors. Il y a beaucoup de familles qui dorment dehors. Moi, je connais des femmes avec enfants qui dorment dans leur voiture, des gens qui travaillent, qui dorment dans les garages. Et non, il n'y a pas de place. C'est juste... et ça, c'est une situation de fait. On peut demander aux assistantes sociales et assistants sociaux de Nantes ce qu'il en est et... Ils n'ont pas de solution.
Mais on a souvent cette situation-là de gens qui viennent nous solliciter quand c'est presque trop tard, quoi. Et on se dit, on aurait été sollicité un mois, deux mois avant, on pouvait se bastonner. Là, on arrivera à limiter les dégâts peut-être si on y arrive, mais on ne pourra pas faire des miracles.
Est-ce que ce phénomène est récent ?
Clairement, pour moi, il s'amplifie. Il y a encore 2-3 ans, une femme isolée qui appelle le 115, elle avait une place, quoi. Là, aujourd'hui, c'est devenu courant qu'on lui dise, non, mais rappelez dans une semaine, madame, débrouillez-vous.
Il faut construire pour ça.
Je ne suis pas experte en tout cas sur le sujet, mais je pense qu'il faut déjà commencer à occuper en effet et à faire du bail précaire dans les logements qui sont vides et permettre à des personnes qui ont des faibles ressources d'accéder au logement. Mais ça, c'est une démarche de l'État. Ça peut pas être... Mais ce serait en effet une solution temporaire en attendant la construction de nouveaux logements.
D'accord. Et donc pour mettre à disposition ces logements-là, ce ne serait pas si compliqué s'il y avait une volonté derrière.
C'est un peu ça, oui.
Par contre, il y a une autre chose qui bloque quand même le fait que les services d'hébergement d'urgence soient saturés et que les gens se retrouvent dans la précarité sur la longue durée. C'est qu'en théorie, l'hébergement d'urgence, le code de l'action sociale et des familles, c'est une personne qui appelle au secours et qui a besoin d'un hébergement et hébergée jusqu'à ce qu'elle trouve une porte de sortie vers mieux. Et là, en fait, comme on a vu comment ça fonctionne depuis, ça commence à faire un petit moment maintenant, elle est hébergée un jour, deux jours, trois jours, et puis remise dehors. Donc elle revient, deux jours plus tard, elle rappelle, quoi. Donc il n'y a pas d'accompagnement vers un parcours de logement, parce qu'il n'y a pas assez de logement social qui soit vraiment accessible, qui soit fait pour des personnes avec des petits revenus. Maintenant, si vous demandez un HLM avec un RSA, en théorie, oui, en pratique, non, c'est pas que c'est pas la peine, c'est si, il faut le faire, mais il va falloir se battre pour l'avoir, le truc.
Je sais pas, les logements d'urgence, ils ont quelle allure, on va dire ?
Il y a tout, il y a du petit foyer avec 5, 6, 7, 8 chambres avec une cuisine commune, il y a de l'hôtel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hôtels. Il y a de l'hôtel normal, clean, où c'est quasiment un business que de faire de l'hébergement d'urgence, et puis il y a de l'hôtel insalubre qui se maintient grâce au fonds de la ville ou de l'État, je sais plus qui, non, c'est le département.
Et après, sur les... là, on assiste en effet, la situation, elle s'aggrave. Et ce qui est inquiétant, c'est que tous les relais tombent un peu au fur et à mesure. Alors, ce n'était pas un relais, mais par exemple, le CHU de Nantes accueillait encore jusqu'à peu les personnes à la rue la nuit.
Accueillait, le mot est un peu fort.
Les personnes pouvaient rester. Parce que les personnes qui sont à la rue, elles vont soit à la gare, soit dans des jardins publics. Et aux urgences, notamment les femmes avec enfants, allaient aux urgences pour des questions de sécurité. Sauf que le CA, le conseil d'administration du CHU de Nantes, pour des raisons tout à fait valables, vu que ce n'est pas leur mission d'accueil d'hébergement d'urgence, a décidé de ne plus accepter ces personnes à la rue dans son hall d'accueil d'urgence. D'accord. Ce qui fait que ces personnes se sont retrouvées à la rue la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'espace, finalement, sur Nantes, public, où on peut même dire à une personne, vous allez attendre dans cette salle d'attente jusqu'au matin, quoi. Moi, je trouve
la
ça très inquiétant.
La gare aussi est fermée la nuit, en fait.
Ouais. La gare, oui, il la vide.
Et même les parcs, maintenant.
Oui.
Je peux me permettre la parenthèse, parce que même les parcs, maintenant, où, à côté de chez moi, Square Verte, 60 migrants avaient une dizaine au départ, et puis à la fin, ils étaient 50, 60. C'était mis sous la tente. Il y avait beaucoup d'aide de la part des voisins qui venaient voir de s'ils avaient besoin de bouffe, ils allaient faire des courses, qui venaient essayer de réparer les tentes, etc. Ce square-là, maintenant, a été recouvert de caillasses et entièrement clôturé. Et depuis bientôt 3 semaines, maintenant, il y a 5-6 vigiles qui sont 24 heures sur 24 à surveiller l'endroit. Le jardin des fonderies, c'est pareil. Le square d'Avier, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas besoin de 5-6 vigiles pour le square d'Avier, et puis ils n'ont pas foutu des caillasses partout parce que ça aurait été trop visible et ça aurait fait des ordres. Mais voilà, même les parcs maintenant deviennent hors. La ville n'est plus à nous au bout d'un moment. Moi j'observe un peu, je ne suis pas dans les petits papiers de Nantes Métropole et de voir comment ils font leurs appels d'offres pour le choix du mobilier urbain. Les choses sur ces. Le mobilier sur ces coins-là qui sont un petit peu voyage à Nantes, etc. J'ai pas remarqué de dispositif anti-SDF. Par contre, toutes les nouvelles stations de tram, les bancs, les trucs comme ça, tous les obèdes de bus maintenant, s'il y a un tout petit appui, mais c'est pareil dans toutes les villes. Hein. Je pense que JC Decaux sait plus faire que ces trucs-là, et c'est JC Decaux qui chope tous les marchés, si je ne m'abuse. C'est éviter que les gens s'éternisent, éviter que les gens s'installent, éviter qu'il y ait. La ville, il faut que ça circule. La ville, c'est comme la bourse, il faut que les flux se promènent. Il ne faut pas que les gens se fixent, il ne faut pas qu'ils se rassemblent, il ne faut pas qu'ils se parlent.
Les personnes, en fait, à la rue ne sont plus acceptées.
Voilà, c'est la partie de l'interview qui parle donc des SDF et de la problématique d'être à la rue. Quelqu'un veut réagir peut-être ?
Ouais, juste ajouter quelques informations en fait. À Nantes, il y a la nouvelle gare qui est en train d'être construite et j'ai appris il n'y a pas longtemps que la gare, c'est plus un lieu public, quoi. C'est-à-dire que pour être à l'intérieur du hall, en fait, vous avez besoin de votre titre de transport. Ouais. Et je crois qu'elle est fermée la nuit, en plus. Sinon, pour continuer dans les bonnes nouvelles, en fait, j'ai vu un reportage à la télé, au journal, en fait. Il y avait des propriétaires de halls d'immeubles, en fait. Quand il y a une alarme incendie, en fait, il y a des jets d'eau, enfin, ils allument ça, en fait.
Quand ils fument ou quand...
Non, c'est pas ça, en fait, mais ils avaient mis au point un système pour que ça soit déclenché la nuit, okay. Pour que les SDF ne puissent pas dormir.
Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, paf, l'eau s'allume, quoi, c'est ça ?
Ouais. Okay. Moi, en bas de chez moi, il y a des personnes qui dorment à la rue. Je l'ai rencontré encore tout à l'heure, le gars. Et il m'a simplement dit... il était en fait... Il y a trois immeubles qui sont vides. Et en fait, lui, il dort dans l'angle pour être coupé du vent et pour pas avoir la flotte. Et là, il m'a dit, ils vont murer. Ils me chassent. Il disait qu'il n'y avait plus de...
Ouais, à côté de chez moi aussi, j'avais des appartements, en fait, où il y avait des je crois que c'était des Roumains, en fait, ou des migrants, en fait, qui logeaient en fait de façon illégale en fait et ils posaient pas de problème quoi ils s'étaient plus ou moins intégrés au quartier et depuis un mois ou deux en fait j'ai constaté que les fenêtres étaient murées en fait
Ok.
Ils sont plus là.
Sympa.
C'est vrai qu'aussi, à Paris, par exemple, il y a des zones qui sont en fait, visitées par, enfin, connues de tous, mais cachées. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des endroits où, d'un côté, il y a les grandes galeries où les gens achètent à tour de bras leurs affaires, et de l'autre côté, il y a un mur, donc de l'autre côté, il y a des gens qui dorment à même le sol ou sur un matelas, et donc en tant que SDF, c'est-à-dire qu'il y a le fossé encore qui est là, quoi. C'est-à-dire que là, le fossé, c'est un mur, mais il faut voir qu'il y a deux tranches de la population qui habitent quasiment au même endroit, sauf qu'elles ne vivent pas du tout la même chose. Donc,
il y a un fossé au sens propre, quoi, pour se figurer.
Ouais. C'est ça. Donc le truc, c'est que on sait qu'ils sont... Enfin, nous, maintenant, on sait qu'ils sont là, mais il y a vraiment... C'est-à-dire que c'est deux personnes qui vivent d'un côté de l'autre sans se connaître. En gros, c'est ça, quoi.
Mais c'est l'argent qui détermine tout, quoi.
Ouais,
c'est vraiment ça. Nous, on a la hache, mais heureusement qu'elle est là pour nous permettre justement de subvenir à nos besoins, quoi. Ouais. Parce que c'est pas le cas.
Et encore, trouver un logement quand tu touches que la hache, vas-y, les propriétaires, ça se dit pas, mais globalement, les propriétaires, dès qu'ils voient que tu as la hache, c'est non.
Ça, c'est dans le privé. Dans le public, ça.
Dans le privé, ouais.
Il y a un peu plus de facilité, mais c'est pas non plus évident. Ouais. En fait, on touche la hache, donc, qui est de 820, qui va être augmentée ce mois-ci de 40 euros, qui va passer à 860. Et c'est une allocation adulte handicapé qui permet de soutenir les gens en difficulté et en situation de handicap. Voilà. Et donc, IAM a fait un morceau pour la fondation de l'Abbé Pierre qui s'appelle Habitude, que je vous propose d'écouter. Et ça sera suivi de la troisième partie du DAL basée sur l'handicap et le logement.
Aucun visage ne me regarde, et sur les quelques pièces que je glane, à la sortie des magasins, après l'office, le côté face aussi me donne le profil. Le soleil tombe avec les degrés. Depuis ce matin je marche, mais là mes pieds sont lasses. Il faudrait que je pense à me poser, que je me trouve un porche ou un coin tranquille, bien abrité. À l'écart des regards, la tolérance est souvent mal imitée. Parfois j'aimerais être invisible, tout comme ces fantômes, ne pas voir ces yeux qui me regardent pas comme on regarde un homme. Bonjour madame, n'ayez pas peur, non je ne suis pas dangereux. Je vous tiens la porte, c'est tout, c'est pas à votre sac que j'en veux. C'est qu'un bonjour, ça vous coûtera pas un euro. Allez, fouillez votre cœur, y a peut-être encore quelques merci, je vous jure. C'est pas de ma faute, c'est tout le pays part en vrille. Je suis là par manque de chance, la vie a ses sombres héros comme une ombre au tableau. Je croise des routes sans jamais laisser de traces. S'il vous plaît, voyez-moi une fois avant que le vieux ne m'efface. Je sais que c'est dur car vous me percevez comme un peut-être. Alors c'est presque par instinct que vous tournez la tête. C'est vrai, je dors là où vos chiens ont leur chiotte. Je gêne les amoureux qui sur les bancs le soir se bécotent. Et si le vent parfois me force à squatter vos entrées, n'oubliez pas, même les vaincus ont droit au respect. Et si le dédain était armé, je serais mort mille fois, comme ceux qu'on retrouve le matin gelé et mort de froid. Mais là c'est pire et ma présence ne choque même plus. Le temps défile doucement, je deviens une simple habitude. On ne me voit plus, je suis transparent, une habitude. Les regards glissent sur mes affaires entassées sur ce trottoir vide. C'est tout ce qui me reste, mon testament. On ne me voit plus, je suis une silhouette, une ombre sans utilité. Comme disent hommes et femmes pleins de futilité, je ne suis qu'une habitude où aucun pas s'arrête.
On vit l'hiver, gelé par la honte, le froid et l'été, l'indifférence des passants nous fait de l'ombre. Sur un trottoir, un banc dérange, chacun s'accroît à une pièce, de l'eau courante, un trésor qu'on ne trouve pas. Le soir on marche en petit groupe, livré à nous-mêmes, rien qui nous retient ici, ni maison, ni repère. Nos souvenirs, nos joies, dans des sacs poubelles, on brave le quotidien et voit nos espoirs à la baisse. On fuit la loi et l'ordre qui nous chasse parce qu'on n'a plus de sous. Ils ont saisi ma dignité avec mes biens un jour. Depuis je vous regarde faire semblant de ne pas me voir et ça me marque. Plus que le temps à tuer sur le goudron une tache dans ce parc. vos non-dits qui en disent long me rattrapent. Et parmi nous, beaucoup se résignent. Face au mépris, le signe pour une idylle avec une bouteille vide. On juge pas, on a tous une histoire, je vous le souhaite pas. Je pourrais être vous, vous pourriez être moi. Alors je rêve devant les vitrines, tant pis si c'est pour de faux. Je sais que la rue ne fait pas de cadeaux. J'essaie d'être fort même dans le caniveau. Je ne suis qu'une statue de chair parmi vous. Et à la fin j'aurai joué mon rôle jusqu'au bout. Mais les spectateurs m'ont fait défaut.
On ne me voit plus, je suis transparent. Une habitude, les regards glissent sur mes affaires en...
J'ai pas des masses de billes très très précises, mais j'aimerais bien qu'on en parle, en particulier avec vous, sur la question de l'accessibilité PMR dans la loi Elan et en dehors de la loi Elan. Pour les personnes à mobilité réduite, oui, c'est comme ça qu'on appelait ça jusqu'à présent, qu'on continue à appeler ça. La loi Elan revient là-dessus, ça a beaucoup été discuté au printemps dernier, je pense que la plupart des gens en ont entendu parler. La loi applicable jusqu'à présent, depuis 5-6 ans, était que les logements construits devaient être accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'était un peu tous les handicapés, parce qu'il y avait aussi un volet de difficultés visuelles, les malentendants, problèmes d'orientation, etc., etc. Dans la pratique, la plupart des normes qui étaient respectées, parce que c'était la seule chose qui était quantifiable, dimensionnable, c'est les questions de fauteuil roulant et de préhensilité des poignées, et des interrupteurs, ce genre de choses. C'est quelque chose qui agaçait beaucoup les architectes d'avoir à respecter cette norme générale et qui agaçait beaucoup les promoteurs. Et les constructeurs, parce que forcément, c'est un peu plus compliqué. Et là, ils ont ramené cette part à 20%, mais on se demande un peu comment ça va être applicable. Dans un immeuble, quel logement sera accessible ? Ça va être plouf-plouf. A priori, ça va être le moins économiquement valorisable. Ça va être ceux-là qui vont mettre en accessible, ou les logements témoins. Et est-ce qu'on en restera toujours à cette application de la loi d'accessibilité aux handicapés, qui est grosso modo, ça se contente de dire, il faut des rayons de giration pour les fauteuils roulants et mettre les poignées des portes à plus de 40 cm des angles rentrants. Mais je ne sais pas si c'est ça le plus pertinent pour les personnes en situation de handicap. Et j'aurais bien aimé, parce que par contre sur la question de l'handicap psychologique, troubles de l'orientation, ce genre de choses, parce que là, je suis absolument incompétent. Je ne sais pas quel est votre ressenti à vous là-dessus.
Peut-être qu'on a moins de difficultés. On n'a pas à avoir des ajustements pour nous, quoi. L'essentiel pour nous, ça serait d'être dans un endroit agréable, pas trop anxiogène, parce que justement, on a beaucoup d'anxiété et qu'on a des angoisses qui ne sont pas explicables, justement. Donc, ça fait partie de ça. Donc, la chose importante serait peut-être d'être dans un endroit qui soit un peu agréable, pas forcément le luxe, mais un peu agréable, où il n'y ait pas de stress, pas de bagnole qui brûle, ou ce genre de choses, voilà. Après, l'isolement fait partie peut-être d'un point commun pour tous les handicapés. C'est l'isolement. Là, on se retrouve seul, et là, c'est pas la même chose. Les ressources sont pas les mêmes selon chacun, et la famille n'est peut-être pas tout le temps là. Donc, peut-être le point commun, c'est peut-être là, dans l'isolement.
Par rapport à ça, il y avait l'idée qu'à un moment donné, il y avait l'idée que des personnes âgées pouvaient être entouré par des personnes handicapées, c'est-à-dire mélanger les deux, entre guillemets, problèmes, le problème lié à l'âge et puis au handicap.
De la difficulté de se loger et de vivre dans une société avec un handicap, nous recevons Lucie, qui est confrontée à cette problématique. Lucie, peux-tu nous parler de toi et des difficultés que tu rencontres au quotidien, si tu veux bien ?
Oui, bonjour, je m'appelle Mademoiselle Lucie Lacoin, je vis seule. Je suis une fille handicapée depuis l'âge de 14 mois. Je suis très autonome et puis indépendante dans la vie de tous les jours. Là, effectivement, vous me voyez tous en fauteuil, mais chez moi, je me débrouille en déambulateur depuis peu, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup intérieurement, mais depuis peu extérieurement, tout du moins. Donc voilà. Mais c'est difficile, mais sans l'être. Parce que d'un côté, j'ai l'impression d'être trop maternée par mes voisins. Et d'un autre côté, non, quoi, c'est difficile, mais c'est quoi. Pour moi, j'en ai pris l'habitude, quoi, c'est si vous voulez. Donc voilà.
Est-ce que tu as dans ta maison quelque chose qui t'aide à te, entre guillemets, par exemple, des trucs pour t'accrocher ou des choses comme ça
Ah non, j'ai, j'habite au rez-de-chaussée. Là, avec mes soucis de santé, ça n'a rien à voir avec mon handicap d'enfant, de ce que vous voyez là. C'est une chose qui est arrivée le 1er novembre et qui me suis tombée dessus. Mais même à l'heure actuelle, tout le monde est dans le flou total au niveau des médecins. Donc c'est voilà. Et donc du coup, lors de ce jour, je me débrouille toute seule. Je suis une vraie tête de mule. Je n'ai pas d'auxiliaire de vie. Je n'ai pas d'aide à domicile. Je suis quelqu'un qui épuise toutes les recettes inimaginables. Mais il faut que je me débrouille par moi-même. Et si je n'y arrive pas, là, je demande de l'aide.
Je veux savoir aussi, quand tu es comme ça en fauteuil et que tu es invité chez quelqu'un, et qu'il n'y a pas d'ascenseur et tout ça, tu dois te sentir un peu frustré, quoi.
Non.
Ça crée pas un climat, justement, un peu, pas anxieux, mais d'isolement et tout ça aussi.
Ouais. Non, pas forcément, non, parce que, la plupart de mes amis, on se retrouve dans les centres-villes ou alors en ville. J'ai pas mal d'amis qui habitent au rez-de-chaussée, donc voilà, mais... ou alors ils ont un ascenseur, mais c'est sinon... je suis en fauteuil, mais depuis le 4 juin, quoi, c'est une à trois semaines depuis le 4 juin que j'ai perdu la stabilité et l'équilibre, mais avant je marchais. Donc voilà.
On voulait savoir aussi si, comment, par exemple, tu te balades en TAN, s'il y a vraiment quelque chose de fait pour les gens en fauteuil ou... Parce que tu connais ça maintenant.
Ah mais oui, mais Antoine, mais je peux très bien prendre le tramway, prendre Chronobus. Il n'y a pas que Proxitane. Les bus, les Chronobus, ils ont tous une passerelle avec un emplacement pour fauteuil handicapé ou même quelquefois, il y a le logo poussette aussi qui y est. Non, il n'y a pas de problème.
Ce qui n'était pas le cas quand le tram est arrivé, je crois que c'est en 85 en fait. Les premiers trams, en fait, qu'on trouve encore sur la ligne 3 à Nantes, ils sont surélevés, quoi. Donc, il n'y avait pas d'accès. En fait, c'est-à-dire que ça a été progressif, en fait. Les premiers trams n'avaient pas du tout d'accès handicapé. Après, ils ont mis le wagon du milieu, en fait, simplement, en accès handicapé. C'est-à-dire qu'il était surbaissé. Et puis ensuite, il y a les trams qu'on connaît maintenant qui sont arrivés et qui ont accès handicapés pour
tous les portes.
Il y a eu beaucoup d'évolution.
Et je veux savoir aussi, quand tu allais à la FNAC, comment ça se passait ? Parce que je crois qu'il y a un ascenseur, mais comment ça se passe ?
À la FNAC, il y a une pente, spéciale pour handicap. Tu n'es pas obligé de monter les marches. Ceux qui peuvent les monter, les montent, mais tu as... T'as une pente spécifique,
côté,
oui, voilà, oui, ah, spécifique okay. pour handicapés. Mais non, c'est vrai que non, pour moi, l'autonomie, l'indépendance, ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est une grande place dans ma vie, quoi, si vous voulez. Et puis, c'est vrai que dans ma famille, disons que c'est pas évident de se faire comprendre, surtout quand on est handicapé, parce que quelquefois, tu te demandes si c'est vraiment toi qui l'es ou si c'est la personne d'en face qui l'est, quoi. C'est surtout dans notre société d'aujourd'hui, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression d'être normale, mais sans l'être, quoi. C'est si tu veux... Il y a quelquefois, j'ai l'impression d'être valide, mais mon handicap me rattrape quelquefois par derrière et qui est compliqué. Alors que je me sens comme toi, quoi, avec tes deux bras, deux jambes, la cervelle qui fonctionne bien, quoi. Mais c'est... D'accord. Oui, voilà.
Une inconnue, en fait.
J'ai l'impression de tout ça à cause de deux vaccins. En fin de compte, c'est parce que c'est deux vaccins qui m'ont fait tomber dans le coma à l'âge de 14 mois. Et donc, du coup, suite à ça, j'ai eu plein de séquelles par derrière et qui ont fait que je suis passée dans les mailles du filet. Mais c'est vrai que non, c'est frustrant, oui, effectivement, parce que dans la vie quotidienne, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Mais en fin de compte, je ne le suis pas. Et donc, quelquefois...
On te le rappelle, peut-être.
Oui, c'est difficile. Okay.
C'est-à-dire que au niveau du handicap, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le psychique encore. Et donc, vu qu'on parlait du logement, il y a aussi cette histoire que vous connaissez peut-être de ces psychotiques qui sont chez eux et qui se mettent à gueuler et qui embêtent tous les voisins. Mais ça, bon, il faut essayer de savoir que c'est dû à leurs problèmes personnels. Ils n'en veulent pas forcément à tout le monde, c'est qu'ils sont blessés intérieurement. Et donc, je connais quelqu'un, par exemple, qui entendait des voix depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas à cause des gens, c'est ces voix qui étaient en train de blesser son rapport au monde. Et à cause de ça, il y a eu des embarras pas possibles avec ses voisins. Habitat, tout ça, ses voisins dans habitat. Donc j'ai eu moi-même un voisin qu'on entendait se mettre à gueuler la nuit là. Voilà, c'est juste pour dire ça quoi, que quelque part quand un psychotique croit que ses voisins vont chez lui. Se servent dans sa cafetière et tout ça, faut voir que c'est quelque chose qui est dû à un dysfonctionnement des synapses, peut-être. Et
c'est
donc,
paranoïaque.
C'est ça. Il y a une interprétation illogique crise, de la réalité.
La personne est en crise et est complètement détachée. N'est plus dans la réalité. Ouais. Mmh. Il en est dans son délire où on lui en veut, c'est la psychose. Il parle plus de psychose maintenant que de schizophrénie. On a fait une émission là-dessus avec une psychiatre qui parlait de psychose chronique, en fait. Et donc les gens perdent pied avec la réalité. Donc ça, c'est encore un autre type de handicap. Et moi, j'ai connu ça aussi dans mes logements, où des fois, quand j'ai eu des crises, j'étais perdu, quoi, complètement perdu. Donc, revenons peut-être à Lucie. Est-ce que, par exemple, ton appartement est adapté maintenant ou pas? Est-ce que dans la salle de bain
Moi, j'ai un appartement au rez-de-chaussée. Bon, avant, c'est vrai que oui, mon appartement, il est adapté. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il y a juste la baignoire auquel j'ai mis 10 ans avant d'avoir la douche à l'italienne. Mais c'est sinon, non, il est totalement... Oui, quand même, oui. C'est pas... Oui, voilà. Mais par contre, c'est pas mal parce que quand je t'ai entendu parler de voisinage, c'est vrai que moi, mes voisins, j'ai l'impression que moi, mes voisins, et quelquefois, je me sens trop maternée. Et quelquefois c'est le sens inverse.
Ah d'accord.
Et c'est pareil aussi au niveau du bruit. Il y a des moments où c'est très très compliqué de leur dire stop it. Comme le sens voilà quoi. Il y a un moment donné où
toi aussi t'as envie d'être au calme. Ça, voilà, ça s'inverse quoi.
Oui tout à fait. À partir d'une certaine heure, quoi, faire attention aux gens et puis. Et
là il y a pas de question handicap.
Oui. Ce qui est compliqué, c'est surtout je m'aide d'un déambulateur pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir tout ce qui est banal et anodin dans la vie de tous les jours. Si vous voulez, à l'heure actuelle, je suis obligée de me batailler quoi. Tous les jours, je me bats tous les jours, par exemple, pour la cuisine, pour se doucher, pour aller aux toilettes, pour toutes les choses de la vie courante quoi. Que tu fais, oui, le ménage et autres, pour moi ce sont des batailles, mais en même temps ce sont des batailles mais des victoires aussi. Et moi ça c'est vrai que pour moi c'est une sorte de fierté et de faire pour moi les choses par moi-même. Et pourtant, je sais que... Dieu sait, qu'on m'a toujours dit et redit, Lucie, il faut absolument que tu aies une aide à domicile ou auxiliaire de vie, mais j'ai toujours dit non. tout ça à cause de parce que je voulais être comme quelqu'un de normal. Et ça c'est, pour moi, c'est très, très important. Ouais.
On va rester là-dessus. Voilà, c'est là-dessus. Merci, Lucie.
De rien.
Voici la dernière partie de notre rencontre avec les membres du droit au logement, le DAL. Donc, en fait, cet extrait est en fait pour les aider à participer à leurs actions, s'investir dans leur association.
Alors, nous, on a besoin de personnes qui soient motivées pour participer à l'association.
là, concrètement, en fait, de personnes qui auraient envie de s'investir. Ça peut être en termes de communication, faire une affiche, participer aux permanences, voilà, participer à la vie de l'association en règle générale. Et puis, on a besoin de... De quoi ? On a besoin de
bricoleurs que d'experts. Oui. On aurait besoin, si jamais quelqu'un a un juriste sous la main,
qui
a beaucoup de temps à passer en bénévole, on est preneur, ouais. Parce qu'aucun d'entre nous n'est expert, quoi.
Alors après, c'est aussi des personnes qui pourraient mettre à disposition des logements. Tout type de personnes qui pourraient mettre à disposition une chambre. Des fois, il y a des personnes qui ont des maisons, qui ont des appentis ou d'autres parties qui pourraient héberger pendant une nuit ou deux, même une semaine, voire plus si elles ont envie, en tout cas des personnes qui sont à la rue. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de possibilité d'hébergement d'urgence, notamment pour les familles. Voilà, et aussi pour les enfants. Et voilà, on est un peu... Pour cet hiver, ça va être compliqué. On sent que ça va être compliqué. Ouais. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent nous contacter, voilà, ça pourrait être bien. Il y a beaucoup de familles d'hébergeurs solidaires en Loire-Atlantique. Je pense que c'est quand même assez beau et assez fort que tous ces gens aident les autres et les personnes à la rue. Mais malheureusement, ça ne suffit pas encore. Il faudrait que l'État fasse son travail. Voilà. Donc, on en est là. Mais en tout cas, si des personnes veulent nous contacter pour mettre à disposition des lieux, ben on mettra en relation avec des personnes.
Voilà. La solidarité citoyenne est impressionnante et super chouette à voir. Mais il ne faut pas, que l'État se repose tellement sur nous autres et renonce à faire appliquer la loi. Quoi. Voire à l'améliorer. Ne soyons fous.
Emmanuel, tu as une dernière chose à nous dire.
Oui, c'était juste pour parler vite fait des sortes de logements où les personnes sont donc à problème physique handicapé et qui sont aidées par une aide à domicile. Donc c'est des endroits qui regroupent plusieurs personnes et donc plusieurs personnes avec handicap et qui sont comme ça aidées à vivre au jour le jour de la meilleure façon exister, quoi. Au lieu d'attendre à chaque fois qu'ils aient une aide de leurs parents et tout ça, ils sont plus ou moins autonomes, comme disait Lucie. Donc, même s'il y a quelqu'un qui les aide, ils sont lourdement handicapés, mais par la vie, il y a un accident, et comme ça, ils sont aptes à...
C'est une entraide mutuelle.
Voilà. Ouais. Ça existe beaucoup en Italie, je crois que j'avais vu un reportage à la télé là-dessus, et ils ont une approche complètement différente du soin, en fait. Et en Italie, il y a de nombreuses personnes handicapées psychiques, en fait, qui vivent dans des familles, en fait.
D'accord. Ah oui. Ouais. Il y a aussi...
En même temps, je dirais que c'est... par rapport à ce qu'il disait, je dirais que c'est une aide, mais sans être une aide. Parce que se faire aider, c'est très bien, mais...
À partir du moment où la personne te respecte, je ne vois pas le problème.
Ouais, mais si tu veux, c'est bien de se faire aider, mais à partir d'un certain moment, parce que si tu veux, l'aide, c'est bien, mais si c'est pour après que la personne ne fasse plus rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il faut que j'épuise toutes les recettes inimaginables. Et après, je demande de l'aide, mais pas avant.
On va terminer par cette petite touche d'espoir de Lucie. Pour terminer l'émission, quelques infos concernant le groupe d'entraide mutuelle dit le GEM dont nous sommes membres autour de cette table. Pour Noël, le GEM organise un goûter en après-midi pour tout le quartier, le samedi 22 décembre à partir de 13h30, concours de belote, c'est gratuit. Inscription obligatoire par téléphone au 09 50 52 07 27 par mail gemnantes, gemnantes @gmail.com. À 16h30, goûter de Noël, il est gratuit aussi, préparé par les adhérents, plus échange de petits cadeaux de 1 à 2 euros. Ensuite, à 17h30, il y a le karaoké. Venez nombreux, venez nous rencontrer. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter toujours par téléphone au 09 50 52 07 27 et par mail toujours gemnantes, gemnantes@gmail.com. Enfin, le 22 janvier, il y a aussi les ateliers Parlons Psy avec la Fondation de France et l'Institut Montaigne à la Cité des Congrès pour une rencontre travailleurs sociaux et usagers pour des tables rondes, discussions et débats au programme. Eh bien, c'est la fin. Eh bien, grand merci à tous ceux et celles qui ont fait cette émission de Psytoyens.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci aux personnes du DAL, Rachel et Vincent. Merci à Lucie, Jean-Frédéric, Emmanuel, Laurent. Vous pouvez nous retrouver le 16 décembre à 11h. À bientôt pour une prochaine sur JTFM au 91.2. Salut tout le monde.
Retrouvez tous les projets du Sonolab sur le www.sonolab.fr ou sur JetFM 91.2.